un nouveau rendez-vous chaque vendredi soir, avant tout une heure de rencontre avec une ou un philosophe, histoire de se dégourdir l'esprit, peut-être aussi de se consoler du sentiment de solitude qui nous effleure parfois, une heure de partage, quoi qu'il en soit. Que serais-je sans eux ? Henri Marc Mutel à la baguette, Chantal Montagnier, l'indispensable, Louis Audebert et Thomas Langlin aux manettes, sans oublier Djoubaka pour la musique.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Étienne Klein.
Bonsoir Patricia Martin.
Merci d'essuyer les plâtres, vous serez en quelque sorte le parrain de cette émission. Vous êtes philosophe des sciences au CEA, le CEA c'est le Commissariat à l'énergie atomique. Vous y dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Vous êtes professeur à Centrale Supélec. On va parler du temps ce soir. Ça tombe bien parce que le confinement auquel nous avons tous été astreints, mais aussi les vacances aussi pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre, nous ont bien fait sentir que le temps est quelque chose d'aléatoire. Il court et il s'endort. Mais est-ce que c'est bien lui qui accélère ou qui ralentit la cadence? Ça, vous allez nous le dire. C'est pour vous une passion que le temps, qui vous, une passion qui vous a sauté à la figure à un moment donné de votre vie?
Oui, j'ai passé quelques mois quand j'avais une trentaine d'années à m'interroger parce que des médecins m'avaient dit des choses un peu alarmantes sur mon état.
Votre état psychique, non?
Non, physique. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Contrairement à ce qu'ils annonçaient. Et du coup, après, je me suis demandé quel est le rapport entre la variable T que les physiciens utilisent dans leurs équations et puis le temps tel qu'on le ressent. Et ça m'a conduit à m'intéresser à cette question avec des philosophes, avec des physiciens, avec des cosmologistes, avec même des psychanalystes, pour essayer de voir si on pouvait mettre un peu de cohérence dans notre façon de parler du temps. Parce que finalement, et ça c'est un besoin simple de cohérence, vous avez remarqué que tout le monde parle du temps, les physiciens parlent du temps, depuis Galilée au moins, les philosophes parlent du temps.
Bien évidemment.
Et donc il y a une première question toute bête qui est, quand un physicien parle du temps, parle-t-il de la même chose qu'un philosophe? Si la réponse est oui, alors est-ce qu'ils en disent la même chose? Est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Si la réponse est non, à qui doit-on accorder du crédit? Et si au contraire, ils ne parlent pas de la même chose, alors pourquoi c'est le même mot?
Pourquoi c'est le même mot? Effectivement, le définir, ce temps, c'est presque une mission impossible. On va laisser le soin à Jean-Michel Beignet de le faire, d'amorcer les choses. C'était sur France Culture, il est philosophe, c'était sur France Culture en 1996, au micro d'Emmanuel Hirsch.
Une définition univoque du temps, je crois que ce serait difficile. Là aussi, il y a des définitions qui ont souvent l'apparence de boutade. Parler du temps, c'est toujours parler d'autre chose, disait Yankelevitch. On est toujours à côté de la plaque lorsqu'on parle du temps. J'aime bien cette définition, parfois utilisée par mon ami physicien Étienne Klein. Le temps, ce serait le moyen que la nature aurait trouvé pour que tout ne se réalise pas d'un seul coup. Je crois que c'est une belle définition qui suggérerait l'idée que le temps, c'est la nécessité de l'extraposition des choses.
Vous êtes d'accord avec vous-même, Étienne Klein?
Jean-Michel Beignet est un ami très proche. La phrase qu'il a citée, elle est de John Wheeler, un physicien américain. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'il n'y a pas de définition du temps. C'est-à-dire que le sens qu'on donne à ce mot dépend de la phrase dans laquelle on l'a inséré. C'est une grande remarque de Paul Valéry, un écrivain qui m'est cher, qui disait que finalement, on se comprend quand on parle du temps, sauf que quand on extrait le mot « temps » du flux verbal dans lequel on l'a inséré, alors toutes les questions philosophiques, métaphysiques qui se posent à son sujet surgissent. Est-ce que le temps est une entité physique? Est-ce que c'est une substance? Est-ce que c'est un fluide? L'image du fleuve.
On peut passer au rayon X,
est-ce que
par
c'est
exemple
un produit de la culture? Est-ce que c'est une production de la conscience? Etc.
Mais il n'existe peut-être pas, en fait.
Alors peut-être qu'il n'existe pas. Des physiciens d'ailleurs disent qu'il n'existe pas, mais vous remarquerez que lorsqu'ils le disent, eh bien, ça pose toutes sortes de questions. Par exemple, pour savoir que le temps n'existe pas, il faut exactement savoir ce qu'il est. Or, les physiciens qui disent que le temps n'existe pas travaillent sur des théories compliquées qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Et ils disent, dans mon formalisme, le temps n'existe pas. Ça veut dire que l'idée qu'ils se font du temps n'a pas d'écho dans leur théorie. Mais Ça veut dire que pour ne pas le reconnaître dans leur théorie, ils doivent d'abord le connaître. Et comment peut-on connaître le temps s'il n'existe pas? Alors on peut aussi dire, le temps est une illusion. D'ailleurs j'ai un ami qui s'appelle Olivier Garcia qui m'a fait remarquer que l'anagramme de le temps est une illusion, c'est où se pillent les minutes. Le temps est une illusion, où se pillent les minutes. C'est une jolie formule. Ouais. Mais si le temps est une illusion, qu'est-ce que qu'il faut mettre derrière lui? De quoi est-il l'émanation? Et pourquoi avons-nous autant la conviction qu'en fait il existe? D'une certaine façon.
Mais je pense que ce que vous dites là, c'est à la fois très frustrant pour le chercheur et déstabilisant pour la femme ou l'homme ordinaire. Parce que nous avons besoin du temps, nous nous raccrochons au temps.
Oui, mais on en abuse. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à attribuer autant des qualificatifs. Ouais. On dit qu'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels. Mmh. Il y a le temps physique, il y a le temps biologique, il y a le temps cosmologique, il y a le temps psychologique. Mmh. Mais si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps, c'est-à-dire s'il avait des habits d'Arlequin, est-ce que ça serait un concept intéressant? Il faudrait plutôt parler de temporalité. Et donc, si on pense le temps, ça veut dire qu'on pense quelque chose qui échappe aux temporalités dont nous sommes les témoins. Et puis par ailleurs, on s'aperçoit que le mot temps est victime d'une polysémie fulgurante. On l'utilise pour dire la durée, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, l'accélération, l'argent, la mort. Ça fait beaucoup trop pour un seul mot. Et donc il faut procéder à ce que Paul Valéry, que je cite une deuxième fois, appelait un nettoyage de la situation verbale. Il faut faire le ménage. Et donc la question est, à partir de quelle base théorique on peut faire le ménage? Et moi j'ai longtemps pensé que la bonne base pour le faire, c'est la physique. Parce que la physique s'est saisie du temps de façon mathématique à partir de Newton, un peu avec Galilée auparavant. Et comme vous l'avez constaté, la physique est devenue très efficace. Et d'ailleurs, toutes les grandes découvertes de la physique récentes concernent le temps.
Ouais, mais là, ça veut dire que la physique a pris le pas sur la philo.
Oui, alors son efficacité plaide pour elle. Les ondes gravitationnelles découvertes en 2016, prédites par Einstein en 1915. Le boson de Higgs, cette particule découverte en 2012, qui avait été prédite par des théoriciens 48 ans auparavant, c'est des découvertes qui disent des choses du temps, qui seraient compliquées à expliquer, mais ça a à voir avec le temps. Ouais. Et donc on pourrait dire finalement, il faut essayer d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler.
Donc c'est en quelque sorte des preuves.
C'est, en tout cas, si on a eu raison d'appeler temps le paramètre T, que Newton a proposé, alors c'est des preuves, même s'il y a eu des remaniements. Le temps d'Einstein, c'est pas le même que le temps de Newton. Mais il semble que cette efficacité de la physique, à propos du temps, révèle des choses sur le temps qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire que ces découvertes ne disent pas, ne répondent pas aux questions philosophiques, mais en tout cas contraignent et peut-être éclairent l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques.
Donc ça voudrait dire, Étienne Klein, que le temps est à la fois une réalité et une projection de notre conscience. C'est un peu les deux à la fois.
Alors s'il est une projection de notre conscience, et certains défendent cette idée, beaucoup de philosophes ont développé des systèmes qu'on appelle corrélationnistes, c'est-à-dire des systèmes qui font dépendre le temps de la conscience d'un sujet. Et c'est des théories très convaincantes, très bien étayées, il y a celle de Kant, Husserl, Heidegger, etc. Mais il y a quand même un problème, c'est que nous savons aujourd'hui, grâce à la physique, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et que l'homme n'y a pas toujours été présent.
Et le temps est né quand?
Ben voilà, donc ça veut dire que la conscience humaine est un phénomène relativement récent et que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Or, si le temps dépend de la conscience d'un sujet, comment a-t-il pu passer avant que le premier sujet apparaisse?
Bon, là, je pense que nous avons tous le cerveau qui chauffe, un peu de
non,
musique.
Mais c'est un paradoxe sérieux, qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité.
Oui.
Et il est difficile de le résoudre, il y a des gens qui essaient de le faire, mais c'est quand même un problème qui milite plutôt pour dire que le temps ne dépend pas de la conscience.
On va quand même écouter un petit peu de musique, si vous le voulez bien.
Je suis d'accord.
Pierre Sassini et Ben Harper, je sais que vous aimez bien.
The gale will blow to the prairies wild. the choice is stark. Came two by two. Will it come for you? Noah built the ark before the day was dark. Run from the fray. You will sail away. And the waters rise. Thunder in the skies. And the waters rise. On the plank for the last light dies. In the Orient Road. To the poles we go. In the Orient Road. Climb aboard for the gale will blow.
Side to side.
Martin.
Étienne Klein est ce soir notre invité, nous parlons du temps. Étienne Klein, comment est-ce que vous avez vécu cette hibernation collective qui a été le confinement? Est-ce que vous en avez souffert ou pas? Et est-ce que vous vous êtes senti plus en accord avec le monde que quand vous cavalez tout le temps?
Vous parlez du premier confinement, qui
oui,
était
le premier,
une expérience
oui, bien sûr.
Un peu radicale et
oui.
qui correspondait
oui,
sans doute
premier.
À une sorte d'événement historique. Mmh. Il se trouve que je l'ai évidemment très bien vécu. Même si je sais qu'on a tous été mis dans la même condition, mais avec des particularités, selon qu'on était seul, pas seul, angoissé ou pas. Mais en fait, moi j'ai eu l'impression que quand on est privé de marqueurs temporels, réunions, rendez-vous, habitudes, alors notre perception du temps s'émousse. Comme si la conscience que nous avons du temps supposait qu'on ait des occupations. Et quand on a du temps devant soi, quand on n'est pas rythmé comme on l'est d'habitude, eh bien on a l'impression que la notion de temps devient évanescente. Et puis surtout, on a beaucoup associé cette période du confinement à la question du temps. Et en effet, la question de la durée du confinement est importante. Mais le confinement, c'était d'abord un confinement spatial.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, en fait, on est toujours confiné dans le temps. On est toujours prisonnier de l'instant présent, en tout cas physiquement. On peut s'en échapper par l'imagination ou par la mémoire. Mais on est prisonnier du temps, tout le temps. Mmh. Alors que là, on était prisonnier de l'espace. Nos appartements, nos maisons sont devenus des cages. Et donc le confinement, c'est d'abord une affaire spatiale avant d'être une affaire temporelle. Et ce que j'ai trouvé d'assez confortable, c'est que pour une fois, on était débarrassé du souci d'être en retard par rapport au monde. Par rapport à je ne sais quel rythme propre qu'aurait le monde. En temps ordinaire, on est toujours en retard. Par rapport à l'actualité, par rapport à certaines obligations. Et là, on s'est retrouvé synchrone avec le monde. Mmh. L'histoire, en apparence, s'était mise en hibernation. Et puis, troisième élément, il fallait faire la queue devant les boulangeries. Et parfois, c'était long. Et moi, je me rappelais, et d'ailleurs, j'en parlais avec les gens qui étaient dans la même queue que moi, les leçons de la théorie de la relativité d'Einstein, qui nous explique que quand on est immobile dans l'espace, Et c'est le cas quand on fait la queue.
C'est assez rare qu'on parle d'Einstein en allant chercher sa baguette.
Mais quand vous êtes immobile dans l'espace, vous allez à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Tout le temps. En fait, dans l'espace-temps, on va toujours à la vitesse de la lumière. Mais quand on se déplace dans l'espace, alors on ralentit la vitesse avec laquelle on va vers le futur. C'est ça la grande leçon de la théorie de la relativité d'Einstein. Et je trouve que sentir qu'on fonce à toute allure dans l'espace-temps, alors qu'on est en train de faire la queue, immobile dans l'espace, ça aide à supporter l'attente.
Mais c'est déconcertant. Comment est-ce que vous vivez, par exemple, c'est notoriété publique, puisque vous avez même écrit un livre, enfin c'était une conversation, Psychisme ascensionnel, qui est un livre chez Artaud que moi personnellement j'ai adoré. Vous adorez la montagne, l'alpinisme, etc. Vous passez vos vacances à Chamonix, je crois que c'était le cas.
Je redescends.
Vous êtes vraiment redescendu, vous êtes sûr?
En partie.
La montagne, en fait, c'est un peu comme ce que vous racontiez du temps qui a été à un moment donné, vous avez eu un coup de cœur pour ça et ça a été un choc. La montagne, ça a été un choc de la même manière.
Oui, c'est
pour
un
vous
choc. Quand je l'ai vu pour la première fois, je parle des hauts sommets, les sommets enneigés. J'avais 20 ans et ça a été un choc. Je ne pensais pas à l'époque pouvoir les grimper, ces montagnes. Il m'a fallu des années pour franchir la paroi de verre qu'un Parisien qui n'a jamais fait de montagne dans sa famille, accepte l'idée qu'il puisse grimper. Mais c'est mon topos, oui. C'est un endroit où je me sens bien.
À la montagne, c'est ici et maintenant, en fait. C'est rien
dans les phases difficiles, dans les ascensions, quand on doit être concentré, en effet, on est dans une sorte de centration dans l'espace-temps. On se rétrécit. Artaud a une belle expression, il dit « l'esprit devient mince comme une main ». Une sorte de concentration comme ça, qui fait qu'en effet, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et puis au contraire, quand on redescend, quand c'est plus tranquille, quand on fait de la randonnée, alors l'esprit qui s'est contracté pendant la phase délicate, au contraire, s'expand un peu comme un gaz.
Et on pense mieux au grand air à ce moment-là.
Et enfin, moi je crois que c'est une sorte de méditation. J'ai jamais su très bien ce qu'on appelle la méditation. J'ai essayé en lisant des livres, en faisant des exercices le matin, mais
ça n'a pas marché.
Ça marche pas du tout, parce que j'ai cru comprendre qu'il faut laisser passer les idées, sans chercher à les saisir. Comme disait Einstein, une idée, c'est si rare. Donc quand on en a une, il faut pas du tout la laisser partir. Donc moi, je n'arrive pas à méditer, mais en montagne, j'ai l'impression que dans les phases de descente, comme ça, c'est une double descente. On descend parce qu'on perd de l'altitude, mais on descend aussi psychologiquement. Et c'est peut-être ça qui me rapproche le plus de ce qu'on appelle la méditation qui m'est étrangère.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo.
C'est une course entre Achille au pied léger et la tortue, symbole de la lenteur. Achille a donné une large avance à l'animal. Mais demande Zénon, comment Achille va-t-il rejoindre la tortue? Zénon répond pour nous, il faudra d'abord qu'Achille atteigne le point où est présentement la tortue. Mais durant le temps de cette première partie de la course, la tortue a avancé. Il faut donc qu'Achille recommence dans une deuxième partie de la course et s'emploie à atteindre le point où la tortue était après la première partie de la course. Et c'est toujours le même problème. La course se présente dans la segmentation de l'espace et du temps exigée par Zénon, comme un nombre indéfini de courses partielles. Et ainsi, jamais l'homme le plus rapide n'atteindra l'animal le plus lent.
Le paradoxe d'Achille et de la tortue raconté par Gaston Bachelard, avec Einstein, je crois que vous le considérez comme un géant, Bachelard. Et d'ailleurs,
c'est un héros pour moi.
Un héros pour vous. Quand vous étiez, vous avez fait allusion tout à l'heure à une maladie qui vous avait frappé à un moment donné, vous lisiez vous récitiez du Bachelard à haute voix.
Absolument, j'ai lu notamment son livre qui s'appelle La philosophie du non, dans laquelle il explique que penser, c'est dire non à sa pensée.
Mais c'est une jolie histoire, non, Achille et la tortue?
Oui, mais vous voyez, dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, qui est très émouvant, il parle du temps comme si le mot temps désignait la durée. Et la durée, c'est quelque chose de finalement assez mystérieux, parce qu'on représente ou on pense la durée comme l'équivalent de la longueur pour l'espace. Mais quand vous prenez une longueur devant vous, un mètre par exemple, elle est constituée de points qui coexistent, qui existent ensemble, ils sont tous là devant vous. Mais une durée d'une seconde ou d'une minute, elle est constituée de points, d'instants, qui ne peuvent pas exister ensemble. Et donc la question de la nature de la durée est une des questions les plus mystérieuses qui soit. C'est-à-dire que si on savait décrire ce qu'est une durée, alors je pense qu'on aurait résolu beaucoup des problèmes qui concernent la question du temps. Par exemple, quand vous pensez à l'instant présent plus une heure, est-ce que l'instant auquel vous pensez est déjà là quelque part à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'au moment où vous êtes présente à l'instant présent, les instants ultérieurs sont encore dans le néant? Est-ce que le futur existe déjà quelque part à attendre qu'on arrive? Ou est-ce que, au moment où on parle, n'existe que le présent? Le présent serait ceinturé par du néant. Voilà une question intéressante.
Dit-il en me regardant avec un œil coquin. La façon qu'on a, Étienne Klein, la façon qu'on a de parler du temps, vous paraît-elle, au fond, archaïque, en fait? On devrait en parler de façon plus...
Non, moi je ne sais pas pour qu'il y ait une police du vocabulaire
non,
ou de la pensée.
Non,
mais il y a quand même un fait qui doit nous interroger. Si vous lisez le livre de saint Augustin, Les Confessions, ouais. Il y a un chapitre sur le temps,
ouais.
Qu'il a écrit au 4e siècle après Jésus-Christ.
Saint Augustin, il disait que quand on lui demandait pas de parler du temps, il savait très bien oui. Ce que c'était que le temps, mais qu'à partir du moment où on lui demandait...
C'est dans les premières lignes de ce chapitre.
Il ne savait plus.
Quand on l'interroge, il ne sait plus, mais quand on lui demande voilà. Rien, il sait ce que c'est.
Oui.
Mais il y a des phrases absolument géniales dans ce chapitre. Par exemple, il dit « Comment est-ce que je peux être dans le temps et sentir que le temps passe ?» Donc il a vu le paradoxe de l'écoulement. Pour dire que quelque chose s'écoule, il faut penser une autre chose dans laquelle cette chose s'écoule qui ne s'écoule pas. Donc quand on dit que le temps passe... On doit penser le hors-temps, c'est-à-dire quelque chose dans quoi le temps qui passe, passe. Et ce hors-temps, il ne doit pas passer, sinon il n'y a pas d'écoulement. Donc c'est compliqué.
C'est mais compliqué, surtout, mais ça a quelque chose de métaphysique
oui,
qui maintenant est devenu beaucoup plus physique.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez Saint-Augustin aujourd'hui, traduction en français...
Mais c'est vrai qu'il faut le lire.
Vous comprenez exactement ce qu'il dit. Or, entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée... Newton, Einstein et quelques autres qui ont profondément changé la façon dont nous représentons le temps, son lien à l'espace, etc. Ça veut dire que si nous comprenons Saint-Augustin, c'est en fait parce que nous parlons comme lui. Ça veut dire que la langue est demeurée relativement fixe. Elle charrie avec elle des a priori clandestins qui demeurent, alors que la physique, si on la prenait au sérieux, obligerait à changer notre façon de le dire.
Comment est-ce que le physicien que vous êtes, le philosophe des sciences que vous êtes, appréhende le temps qui passe, au sens où, quelquefois, il passe plus vite au fur et à mesure des années, et le vieillissement est là, donc vous l'appréhendez comment?
Déjà, moi, je pense que tout instant est unique, le temps, le facteur temps ne sonne jamais deux fois, chaque instant est un instant inédit, même s'il a le même statut que tous les autres. Et puis cette notion de vitesse du temps qu'on utilise tout le temps, disons que le temps s'accélère.
Là, quand on vieillit, le temps s'accélère,
ben
non,
non. Non. Une seconde, elle dure une seconde, quoi que vous
oui,
fassiez.
D'accord, mais l'impression, sentiment, alors c'est peut-être la durée, là.
L'impression, mais en tout cas, le temps lui-même, il n'accélère pas, il n'a même pas de vitesse,
non, mais il n'a pas de vitesse, d'accord.
Parce qu'une vitesse, c'est une, en termes techniques, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc vous pourriez dire, le temps, c'est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous seriez bien avancé. Dire que le temps s'accélère, ça veut dire qu'il change le rythme de son écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Donc ça n'a pas de sens. Ce qui s'accélère, c'est peut-être le rythme de nos activités, les rythmes de la production, de l'information, mais ça n'affecte nullement le temps même.
Mais l'appréhension qu'on peut avoir du temps, par exemple, un mois de vacances pour un enfant de 5 ans, ça sera beaucoup plus long qu'un mois de vacances pour une femme ou un homme
durées,
de 60 ans. Voilà.
Non, mais la perception des durées, elle est soumise à toutes sortes d'effets psychologiques. L'âge dont vous parlez, mais aussi l'intensité avec laquelle on vit ce qu'on est en train de vivre, selon qu'on s'ennuie ou pas, etc. Donc la perception des durées est extrêmement variable, et c'est bien pour cela que nous avons une montre au poignet. Parce que notre horloge psychologique n'est pas du tout précise. C'est une toquante de très mauvaise qualité. Et donc, nous avons une montre au poignet pour constamment remettre notre propre pendule, qui est de mauvaise qualité, à l'heure.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love was a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows from 1 o'clock to four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving. A woman's born to weep and fret, to stay home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. Nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come.
C'était Julie Lennon sur France Inter, Étienne Klein est ce soir notre invité. Il est philosophe des sciences au commissariat à l'énergie atomique.
Et
aux énergies alternatives. Très bien, bravo. Et professeur à Centrale Supélec, vous êtes l'auteur de beaucoup de livres. Vous m'en avez apporté un, là. Alors là, c'est drôle d'expression pour amener sa science. C'est le Robert qui édite ça. Et j'ai tout de suite regardé à temps. C'est depuis la nuit des temps. C'est très joli comme expression.
Oui, alors ça suppose qu'il a toujours fait nuit, qu'à un moment il faisait tout le temps nuit. Enfin, ouais. Oui, il y a des expressions comme ça qui sont assez mystérieuses, très poétiques hein, d'ailleurs.
Ouais.
Mais celle qui m'a le plus intéressé, c'est la phrase par laquelle on dit constamment « tout est relatif ». Et on est, en général, on utilise Einstein comme caution. La relativité serait la preuve scientifique que tout est relatif. Ça m'a intéressé parce que, en fait, la théorie de la relativité d'Einstein, c'est une théorie de l'absolu. Comme Einstein l'a lui-même reconnu, elle a été mal nommée. Elle dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel. Et parmi les choses qui ne changent pas quand on change de référentiel, il y a par exemple la vitesse de la lumière, qui est une grandeur absolue.
Mais à propos de la nuit des temps, précisément, il y a des, on a besoin de ce rythme. Des jours et des nuits, sauf dans certains pays qui sont plongés dans le noir des mois durant, ou des pays au contraire où, par exemple, le soleil ne se couche jamais en été, comme en oui. Finlande. Donc là, on perd complètement les repères.
Absolument. De même, il y a des gens qui se sont laissés enfermer dans des grottes, comme vous savez, des gens qu'on appelle des spéléonautes, et qui, en effet, perdaient complètement le sens de la durée.
Ça vous a jamais tenté, ça ?
Je suis au Spitzberg, j'ai traversé une partie du Spitzberg à ski.
Oui.
En été, donc il faisait des jours 24 heures sur 24.
Ouais.
Et en fait, oui, on se décale complètement. On installe le campement quand la fatigue est là. Et en fait, la sensation de fatigue dépend de la conscience qu'on a de la durée qui s'est écoulée pendant l'effort.
C'est-à-dire, si on pense qu'on a fait un effort pendant un quart d'heure, on n'est pas fatigué de la même manière que si c'est pendant 2 heures.
Voilà. Michel Siff, qui est un spéléonaute, qui était parmi les pionniers, raconte qu'un jour, un jour ou une nuit, d'ailleurs, on ne sait pas, dans sa grotte, il a décidé de piocher pour faire de l'exercice physique. Et quand il a eu terminé, il a prévenu la surface en disant, je pense que j'ai pioché pendant 1 heure. Et en réalité, il avait pioché pendant 11 heures. Donc la conscience qu'il avait de sa fatigue était complètement perturbée, parce que si vous piochez pendant 11 heures en ayant conscience de le faire pendant cette durée, vous êtes assez rapidement très fatigué.
Mais ça veut bien dire quand même que depuis, on peut dire presque depuis toujours, l'homme a besoin de repères temporels. Il y a les repères de la vie monacale, mais il y a eu les cadrans solaires, il y a eu les sabliers, vous parliez tout à l'heure de l'amande, l'éclepside, que sais-je.
Oui. En fait, ça a toujours été très imprécis. Non, il y a quand même des périodes où l'humanité a vécu sans montre, sans horloge.
Oui,
il y a l'alternance du jour et de la nuit qui est le marqueur principal. Mm-hmm. Et on se débrouille avec ça.
Est-ce que le temps est universel? C'est une drôle de question, ça. Alors, si vous voulez bien, avant que vous ne répondiez, on va soumettre à la réflexion de tous la pensée d'un homme que vous connaissez bien, que vous appréciez, c'est François Julien, qui est philosophe, helléniste, sinologue. C'est l'un des penseurs contemporains les plus traduits dans le monde, je crois, et il nous éclaire sur ce point.
Nous avons pensé le temps en Europe, pourquoi ? Pour une raison d'abord de physique. Comme dit Aristote, n'est-ce pas, le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Donc c'est ce qui permet de mesurer le passage d'un mobile d'un point A à un point B. Et puis la grande entrée métaphysique, le temps opposé à l'éternel, opposé à l'être. Et puis la conjugaison, le fait que nous conjuguons en langue européenne au passé, au présent, au futur. Or le chinois n'a pas pensé, ne conjugue pas. Il y a des marqueurs éventuels de futur proche, des marqueurs de passé. Mais vous pouvez traduire un texte au présent, imparfait, selon ce que vous choisissez comme temps, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de conjugaison. Bon, ça c'est fondamental. Donc il n'y a pas cette division entre des temps qui sont des modalités de la langue. Et puis, la pensée chinoise n'a pas abordé ce qu'on appelle la nature, nous la fusis, en termes de corps en mouvement, qui est le grand choix grec, des mobiles, mais en termes de facteurs corrélés, yin et yang, etc. Et aussi, elle n'a pas pensé à l'éternel. Elle a pensé quoi ? Le sans fin, l'inépuisable, Wuchion. Ce dont on n'arrive pas à bout, ce fond sans fond des choses. Donc, au fond, elle n'avait pas les motivations de notre pensée du temps. Or, quand on regarde du côté des Grecs, ça qui m'intéresse le plus, c'est qu'on se rend compte que le temps, c'est une affaire étrange. D'abord, il y a ce croisement entre Chronos avec un qui et un kappa. Le Chronos, Dieu qui mange ses enfants, et puis le Chronos qui est le temps. D'où cette image après ambiguë du temps qui dévore, et que Aristote reprend. Reprend quoi de la mythologie grecque, hein?
L'image de Chronos, dévoreur patenté, c'est quand même effrayant, non ?
Oui, c'est le Chronos avec un K,
oui.
Qui a donné le Chronos avec CH.
Avec CH.
Mais François Julien dit là des choses importantes, parce que pour tout vous dire, au mois de juillet, avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, collègue philosophe qui travaille dans mon laboratoire, on a organisé un colloque.
Qui s'est intitulé
« Les autres noms du temps ». Et on a demandé à des chercheurs de toutes disciplines, physiciens, biologistes, historiens, philosophes, etc., de nous dire ce qu'ils disent d'habitude, mais sans utiliser le mot « temps ». Donc ils avaient un compteur 20 points, à chaque fois qu'ils disaient le mot « temps », ils perdaient un point, et ne récupéraient le point que s'ils justifiaient l'usage qu'ils faisaient du mot « temps », plutôt que de prendre un autre mot qui aurait dit de façon plus précise ce qu'ils avaient à dire.
Vous avez dû vous amuser.
On s'est beaucoup amusé, même si peu ont vraiment respecté la règle, parce que le mot « temps » sort tellement naturellement que c'est très difficile de s'empêcher de le dire. Mais celui qui a le plus de facilité, c'est François Julien. Puisqu'il nous a parlé du temps en Chine, et il nous a expliqué ce qu'il vient de résumer là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, que la Chine n'a pas pensé le temps tel que nous l'avons conceptualisé, elle l'a importé en fait, mais elle a pu s'en passer en parlant d'air, de période, de cycle, en se privant du concept d'un temps linéaire et homogène auprès duquel on pourrait rapporter la suite des événements.
Ce qui veut dire que là aussi, il y a une homogénéité qui se produit, c'est-à-dire qu'un Chinois aujourd'hui ne pense le temps probablement comme vous et moi. Enfin,
absolument, mais vous trouverez sans doute, les ethnologues connaissent certainement des peuplades dans lesquelles il n'est pas complètement arrivé tel que nous l'avons conceptualisé.
Quel est le temps que vous préférez, vous, à titre personnel, Étienne Klein ?
Pourquoi il y en a plusieurs ?
Je sais pas, non, je dis plus rien maintenant.
Non, en fait, moi je suis soucieux de la façon de dire les choses. Hein. Et, par exemple, quand on parle de relativité, il y a une vulgate, qu'on trouve d'ailleurs dans des manuels de philosophie, qui fait dire à la relativité que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Donc on déduit de cette phrase qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Donc ça veut dire que si je pars dans l'espace, dans une fusée, eh bien, mon temps, enfin, le rythme du temps pour moi va se ralentir ou s'accélérer par rapport à quelqu'un qui resterait sur Terre. En fait, quand on fait l'expérience, eh bien, on s'aperçoit que quand on est dans une capsule, même qui va très vite, le rythme cardiaque est le même et que la durée qu'il faut pour lire un livre indiqué par sa montre qu'on a emporté est le même que quand on est immobile. Donc, cette phrase distille un contresens parce qu'elle laisse croire que quand on est en mouvement, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Or, quand on est en mouvement, on est immobile par rapport à soi-même. Donc, le fait d'être en mouvement ne change rien à son temps propre. Mmh. Et donc, ce que dit Einstein, c'est pas cette phrase qui résume en trahissant sa pensée. Ce que dit Einstein, c'est il existe autant de temps propres différents qu'il existe de référentiels différents.
Mais d'un point de vue psychique, on a besoin de se, on dirait, de se projeter dans l'avenir, de savoir qu'un futur existe. Et si, on sait aussi que si on n'a pas de passé, pour une raison ou pour une autre, si on a été privé de son passé, on a plus de difficultés à envisager un futur.
Oui, 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 bien sûr, mais il y a quand même la question du statut du futur. C'est-à-dire, est-ce que le futur est déjà là à attendre qu'on arrive? Ou est-ce qu'au moment où on parle, il n'existe pas du tout? Et là-dessus, on n'a pas de réponse universelle, pour le coup. Mmh. Quand vous représentez l'axe des temps, quand vous tracez une courbe, par exemple, vous représentez l'axe des temps, c'est un segment sur lequel vous mettez une petite flèche pour dire que ça avance.
La fameuse flèche du temps?
Alors, c'est pas la flèche c'est le cours du temps, disons.
D'accord.
Mais en gros, cette flèche indique que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Vous êtes obligé de suivre ce qu'on appelle le cours du temps. Mais en même temps, cette représentation, elle a quelque chose de monstrueux par le fait qu'elle fait coexister ensemble des instants du temps qui ne peuvent pas exister ensemble, puisqu'ils sont successifs et non pas simultanés. Et donc, c'est la grande question de la physique, c'est quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait que ça avance? Et qu'est-ce qui fait que chaque instant présent qui se présente, dès qu'il est apparu, est renouvelé, remplacé par un autre instant présent qui lui-même va disparaître? Ce que j'appelle le temps-moi, c'est le moteur de ce renouvellement.
Et alors, justement, ce moteur, il se matérialise comment?
Mais justement, en physique, dans les théories, disons, canoniques, on dit, bah voilà, il y a un moteur, on ne connaît pas sa nature, et on manifeste sa présence par l'indication de cette flèche, en disant, il y a un moteur qui fait que ça avance. La nature du moteur, on l'ignore. Mais des gens qui sont des théoriciens de haute volée essaient d'élaborer des théories dans lesquelles le moteur pourrait apparaître. Par exemple, Alain Cohn, mathématicien, est venu à Cerisy, à ce fameux colloque, pour nous expliquer comment, d'après lui, ce qu'il appelle les géométries non commutatives permettent d'expliquer la motricité du temps. Donc il y a des recherches.
Et ce moteur pourrait tomber en panne un jour?
Bah avant de vous répondre, il faudrait déjà que je sois sûr de sa nature.
Quand vous parlez, Étienne Klein, du cours du temps, est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a... Parce qu'il y a eu beaucoup de métaphores pour parler du temps. C'est-à-dire qu'on parle autour, on le compare souvent à un fleuve.
Bah oui, mais ça c'est... C'est un fleuve qui s'écoule, mais vous voyez, un fleuve, déjà, il a une vitesse d'écoulement, alors qu'on vient de dire que le temps n'en avait pas. Et puis, un fleuve, pour dire qu'il s'écoule, il faut imaginer qu'il coule dans un lit qui, lui, ne s'écoule pas. Donc, pour dire ce que je disais tout à l'heure, pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut invoquer l'existence d'une sorte de récipient qui ne s'écoule pas, dans lequel cette chose s'écoule. Alors, pour le temps, le récipient, ce serait quoi?
Je sais pas.
Si le temps s'écoule, dans quoi s'écoule-t-il?
Il peut peut-être s'écouler dans quelque chose. Pourquoi pas?
Ben peut-être, alors c'est dans l'espace-temps. Alors là, ça nous amène assez loin, mais en effet, il y a des gens qui interprètent la relativité, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, en disant, mais finalement, l'espace-temps existe de toute éternité. Tous les événements passés, présents, futurs sont là, à des endroits où nous ne sommes pas. C'est notre présence dans l'espace-temps qui détermine ce que nous appelons le présent. Donc le présent est une notion locale. Et ce qui fait que nous avons l'impression que le temps passe, c'est le fait que nous suivons notre trajectoire, ce qu'on appelle notre ligne d'univers, dans l'espace-temps. C'est un peu comme quand vous êtes dans le train, vous regardez le paysage, et vous dites, tiens, le paysage défile. En fait, non, il défile pas. C'est votre mouvement, plutôt celui du train dans lequel vous êtes, qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Ben, c'est la même idée, mais appliquée à l'espace-temps. Voilà, nous suivons notre trajectoire dans l'espace-temps, et c'est notre motricité dans l'espace-temps qui créerait l'impression que nous avons que le temps passe. Nous serions le moteur du temps, finalement.
Ah, pas mal.
compagnon des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
J'aurais dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne. Je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez rêvé, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
C'était Feu Chatterton.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Une heure à peine pour parler du temps, c'est peu. Étienne Klein, comment est-ce que... Enfin, il faut avoir un esprit sacrément souple pour finalement arriver à penser sans aucun a priori, parce que c'est un petit peu ce que vous nous dites depuis le début. Or, des a priori, même, je dirais, inconscients, on en a forcément.
Oui, on est porté par le langage. Notre façon de dire le temps détermine en grande partie notre façon de le penser. Et d'ailleurs, penser, c'est d'une certaine façon être en lutte avec la langue. C'est-à-dire prendre les expressions toutes faites que nous utilisons, puis de se demander si elles sont vraiment vraies. Et donc, penser contre... contre son cerveau.
Pour, c'est presque contre nature.
Oui, penser, non, mais penser, c'est penser ça. Contre son cerveau, comme disait Bachelard. Mmh. Par exemple, quand Newton, au XVIIe siècle, décide d'appeler temps le paramètre T, qui va devenir le paramètre très important de la physique, il nomme temps quelque chose qui n'a pas les propriétés que nous attribuons au temps quand nous parlons du temps. Parce que nous, on dit que le temps ressemble aux événements, on dit que le temps, c'est le changement, on dit que quand rien ne change, le temps s'arrête, etc. Or, Newton, il nomme temps un paramètre qui n'a aucune de ses propriétés. Paramètre abstrait, qui ne dépend pas des événements, qui est complètement indifférent à ce qui se passe en son sein, qui ne se confond pas avec le changement, etc. Et donc la question, c'est par quel stratagème intellectuel a-t-il nommé temps un paramètre qui ne ressemble pas à ce que nous pensons du temps.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé de vue, de vie, enfin de manière d'appréhender les choses depuis que vous vous intéressez au temps?
Ah oui, absolument. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu Heidegger, le temps c'est la finitude du Dasein. Le temps, l'être humain est un être pour la mort, le temps corrode nos existences, la mort est déjà là à mesure que nous vivons. J'ai complètement abandonné ça. Tant qu'on est vivant, on est intégralement vivant. La mort est un moment du futur qu'on ne peut pas prévoir mais qui est certain. Et la mort, à mon avis, vient de l'extérieur du temps. C'est pas le temps qui porte la mort. Le temps, en fait...
C'est pas le temps qui s'arrête,
non,
la mort?
Non, le temps, c'est le vecteur de l'invariance des lois physiques.
Vous pouvez répéter?
Et ben, c'est-à-dire que si vous faites une expérience de physique aujourd'hui,
ouais,
et si vous la refaites dans 10 000 ans, vous obtiendrez le même résultat. Ça veut dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Et le temps, c'est le porteur de cette invariance des lois. Les lois physiques ont toujours les mêmes. Je parle des lois physiques. Mm-hmm. Je parle des lois, les vraies lois physiques. Pas forcément les lois de la physique, qui elles changent. Celles de Newton sont pas celles d'Einstein. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais les vraies lois physiques, on pense qu'elles ne changent pas. On peut même presque le démontrer. Et ce qui change, depuis, disons, le Big Bang, c'est pas les lois physiques, c'est les conditions physiques. Température, pression, énergie, etc. Et donc, penser les choses en ces termes, ça permet de ne pas confondre le temps et le changement, et ça permet de ne pas confondre le temps et la mort. Et ça peut être utile.
Et comment ? Étienne Klein, j'imagine, vous qui êtes un homme en recherche permanente, sur quoi portent vos espoirs ? Quand on est chercheur, on a envie de trouver des choses, on a envie de faire avancer la science. Sur quoi portent vos espoirs à l'heure actuelle ?
Bah, pour ce qui est de la physique, moi je serais intéressé qu'on découvre une particule de matière noire, dont on parle beaucoup, et j'aimerais bien que cette particule soit une particule dite de Majorana. Majorana, c'est un physicien italien qui a disparu en 1938.
Ouais. Et ça changerait quoi?
Bah, ça changerait beaucoup de choses dans la façon de comprendre la structuration de l'univers, son contenu, etc. Mais s'agissant du temps, moi j'aimerais bien qu'on réussisse l'exercice que j'avais présenté tout à l'heure, à savoir que on essaie de débarrasser le temps de ces adjectifs. Il peut pas y avoir autant de temps qu'il y a de temporalité. Si c'est le cas, ça serait pas intéressant. Le temps serait pas un concept. Si le temps ressemblait au phénomène temporel, il se diluerait dans une infinité de manifestations. Et donc, revenir à cette question fondamentale, quand on organise un colloque sur le temps, plutôt que de faire parler le philosophe, puis le physicien, puis le cosmologue, puis le biologiste, puis l'historien, puis le géologue, de dire à ces gens, mais messieurs, mesdames, de quoi parlez-vous au juste? Et il y a une sorte de paresse intellectuelle à laisser penser que chaque discipline a son temps propre. Il y aurait un temps pour la biologie, mais ce temps biologique, on le mesure avec des montres, avec des horloges. Donc il n'y a pas un temps autonome de la biologie. Il y a des rythmes, il y a des temporalités qui sont particulières. Et je trouve que on devrait faire un effort de cohérence. Un peu semblable à celui que j'ai évoqué tout à l'heure, les physiciens parlent du temps, les philosophes parlent du temps, il y a ceux qui parlent de la même chose. Si la réponse est non, alors il faut distinguer ces choses différentes dont ils parlent. Si la réponse est oui, ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent vraiment les mêmes choses? Vous savez bien que tous les philosophes ne disent pas la même chose du temps. Certains font dépendre le temps de la conscience, d'autres pensent qu'il est indépendant de la conscience, et donc auquel allez-vous accorder du crédit?
Et tous les chanteurs, figurez-vous, puisque forcément c'est un sujet qui occupe beaucoup les poètes et les chanteurs.
Même les Rolling Stones ont écrit sur le temps.
Bah, j'étais sûre que vous alliez le dire, parce qu'on va pas vous passer les Rolling Stones. Mais on va voir ce que peut donner le temps en chanson.
Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre.
Celui qu'on veut d'autre, on peut avoir un temps commun?
On peut avoir un emploi du temps, on peut avoir des durées, on peut s'y approprier. Vous voyez, la grande question, c'est est-ce que le temps accueille les événements ou est-ce qu'il émane des événements? C'est une question à 100 balles. Hein.
Bon, d'accord.
Avec le temps va tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
On sait pas très gai, mais c'est une c'est magnifique chanson, c'est
bien sûr.
Très beau.
C'est très beau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le temps passe? Si on définit le temps comme étant ce qui renouvelle en permanence l'instant présent, comme l'instant présent ne cesse pas d'être renouvelé, le temps qui le renouvelle ne passe pas.
Il peut pas y avoir d'usure du temps, donc.
Voilà, donc le temps est toujours là à faire passer l'instant présent pour le renouveler. Donc vous voyez, on peut toujours jouer avec les mots, presque faire de Raymond Devos.
Ouais.
Mais la formule « le temps passe » mérite qu'on s'y arrête pour l'interroger de temps en temps.
Et il n'y a pas de temps perdu, les années perdues?
Ça n'existe pas, on peut pas perdre son temps. On peut... Non.
Non.
Ça veut dire que on pense que tous les moments de vie que nous passons devraient être rentabilisés. Tous les frottements du quotidien nous agacent, comme s'il y avait une rentabilité à attendre de tout ce qui se passe dans le temps. Non, je pense qu'il n'y a pas de... C'est impossible de perdre son temps. Enfin, moi j'essaie de ne jamais le perdre. Et je pense que personne ne le perd jamais. Même quand on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas intéressant, l'ennui peut être fécond, peut être créatif. Et quand on est constamment occupé, je pense qu'on... On perd un peu de la conscience qu'on a de son existence.
Troisième chanson, celle-ci, je ne suis pas sûre que vous la connaissiez.
Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps, il faut laisser passer.
Vous ne connaissez pas Félix Gray, Didier Barbelivien?
Non,
ça, c'est un clin d'œil de notre réalisateur, de Marco.
Je ne connais pas et je crois que je sais pourquoi je ne connais pas.
En tout cas, merci beaucoup, Étienne Klein, d'avoir été notre invité.
Merci pour votre invitation et je souhaite bonne chance à votre émission.
Bah, merci à vous. Je donnerai deux livres simplement, parce qu'il y en a tellement. C'est Matière à contredire, aux éditions L'Observatoire. La physique, selon Étienne Klein. Étienne Klein, c'est vous, donc vous êtes sûr que vous êtes vous.
Pour l'instant, ça va.
C'est chez Flammarion et puis chez Pommier aussi. Il y a plusieurs livres pour enfants. À très bientôt. Merci.
À bientôt. Merci.